matin au Radio-Journal, au Proche-Orient, les craintes d'une escalade ne faiblissent pas.
On ne veut pas qu'il y ait une riposte à la riposte.
Israël promet une riposte et l'Iran compte y répondre. La sélection du jury pour le procès criminel de Donald Trump se poursuit aujourd'hui à New York. Et le gouvernement Trudeau dépose son budget à Ottawa. Les attentes sont élevées.
Au minimum, ça nous prend un plan pour retourner à l'équilibre financier.
Plus gros est le déficit, plus longtemps qu'on va voir qu'il va y avoir des mesures de restriction.
Et surtout, à combien s'élèvera ce fameux déficit? Bonjour, ici Marie-Christine Bouillon. Le cabinet de guerre d'Israël se réunit encore une fois aujourd'hui pour discuter de la riposte que l'armée israélienne veut mener contre l'Iran. Le monde redoute un affrontement entre les deux pays. La République islamique a été bien claire ce matin. La moindre réplique de l'État hébreu à son attaque de la fin de semaine va entraîner une autre riposte des forces iraniennes. Jean-Philippe Robillard fait le point.
Le président iranien a haussé le ton. Il a déclaré que la moindre action d'Israël contre les intérêts de l'Iran provoquerait une réponse sévère, étendue et douloureuse de son pays. C'est également ce qu'a dit le ministre iranien des Affaires étrangères.
Si le régime israélien commet une erreur, cette fois, la réponse de l'Iran, comme l'ont annoncé les commandants militaires iraniens, ne sera pas minime, mais immédiate et sévère.
En Israël, le cabinet de guerre se réunit encore une fois aujourd'hui pour discuter à nouveau d'une éventuelle riposte contre l'Iran. C'est la cinquième fois qu'il se réunit depuis la fin de semaine, depuis l'attaque de Téhéran. Hier, il y a l'état-major de l'armée israélienne qui a affirmé qu'il y a une riposte qui se prépare et que l'armée va lancer son attaque au moment qu'elle choisira. Mais on n'a pas plus de détails pour le moment, pour l'instant. Il y a également le ministre des Affaires étrangères d'Israël qui appelle ses homologues de 32 pays, dont le Canada, à prendre des sanctions contre le régime de Téhéran. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.
Aux États-Unis, la Chambre des représentants va tenir cette semaine deux votes séparés au sujet de l'aide financière pour l'Ukraine et pour Israël. Les deux enveloppes budgétaires faisaient initialement partie de la même proposition, mais plusieurs républicains s'opposent à fournir davantage d'aide à l'Ukraine. La proposition est donc bloquée au Congrès depuis plusieurs mois. À New York, la sélection des jurés a commencé au premier des quatre procès criminels de Donald Trump. L'ex-président républicain est accusé d'avoir falsifié des documents financiers pour dissimuler le remboursement d'un paiement à une actrice de film pornographique pour acheter son silence. Voici le compte-rendu de Frédéric Arnould.
Plus que jamais, Donald Trump divise entre ceux qui l'encensent et ceux qui le détestent. Ici, à Manhattan, il n'est pas en terrain amical. Il avait recueilli seulement 12% d'appui dans ce district. D'où la difficulté de trouver des jurés qui seront capables de le juger en faisant abstraction de leurs opinions quant à l'ex-président républicain. En ce premier jour de procès, Donald Trump en a encore profité pour marteler son message de persécution politique dont il se dit la victime. Seulement une dizaine de candidats jurés ont défilé dans la salle d'audience pendant la première journée et aucun n'a été retenu, ce qui laisse présager un long processus de sélection. Une fois cette étape complétée, le procès devrait alors durer de 4 à 8 semaines, pendant lesquelles on s'attend à voir comparaître Stormy Daniels, qui aurait reçu un paiement de 130 000 $ pour lui acheter son silence à la veille de la campagne présidentielle de 2016. Elle aurait eu une relation extra-conjugale avec l'ex-président. L'autre témoin vedette sera Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump, qui se serait occupé de la transaction. Trump et son entreprise auraient alors tenté de maquiller par des astuces comptables le fameux remboursement. À cause de tout cela, il fait face à 34 chefs d'accusation, dont paiement de fausses factures et falsification de documents de comptabilité. Ce procès forcera l'ex-président à comparaître 4 jours par semaine, ce qui devrait ralentir considérablement son rythme de campagne électorale. Mais il entend bien utiliser ses déboires judiciaires pour mobiliser davantage ses partisans. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, à New York.
À Ottawa maintenant, le budget que va déposer cet après-midi la ministre des Finances, Chrystia Freeland, recèle peu de secrets après 3 semaines d'annonces au coût de plusieurs milliards de dollars. Le suspense réside plutôt dans l'ampleur du déficit. Les partis d'opposition s'attendent à être déçus. Voici les précisions de Valérie Gamache.
Ce budget devrait être marqué par un déficit plus élevé que prévu. Début mars, le directeur parlementaire du budget évaluait que le déficit augmenterait pour atteindre 46,8 milliards de dollars pour 2023-2024. Cela dépasserait les prévisions du gouvernement, qui étaient de 40 milliards de dollars à l'automne. Le gouvernement Trudeau n'a par ailleurs jamais présenté de budget équilibré ni de plan au retour à l'équilibre budgétaire. Ça ne risque pas d'arriver cette fois non plus, puisque les annonces des trois dernières semaines représentent à elles seules de nouveaux investissements de près de 20 milliards de dollars. Il y aura évidemment un accent sur le logement. Pour Justin Trudeau, ce budget doit être le budget de l'équité entre les générations.
Notre économie doit récompenser les efforts des jeunes générations, comme c'était le cas pour les générations passées. Les milléniaux et la génération Z sont le moteur de l'économie. On veut qu'ils aient la confiance nécessaire pour investir en eux-mêmes, en leur avenir. On veut leur redonner l'optimisme et les possibilités que leurs parents et leurs grands-parents ont connues.
Les partis d'opposition s'attendent déjà à être déçus. Les conservateurs cherchent des exemptions à la taxe carbone. Ce n'est pas dans les plans. Le Bloc québécois demande des droits de retrait avec pleine compensation pour tous les programmes qui empiètent sur les compétences des provinces. Ce n'est pas prévu. Et le NPD, dont plusieurs souhaits ont déjà été exaucés, notamment en ce qui a trait à l'assurance médicaments, aimerait voir le gouvernement taxer davantage les profits des grandes entreprises. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa.
Léger rebond de l'inflation au pays. L'indice des prix à la consommation est passé sur un an de 2,8 % en février à 2,9 % le mois dernier. Les prix de l'essence, du logement et des services ont contribué à cette hausse d'un dixième de point. Le manque de ressources spécifiques et de nombreux stéréotypes liés à l'âge bloquent l'accès au marché de l'emploi pour les travailleurs plus âgés. C'est ce que met en lumière une étude réalisée en Alberta où le taux de chômage des 55 ans et plus est légèrement supérieur à la moyenne. Voici les précisions de Tiffany Roquette.
Parmi les 17 organismes qui offrent de l'aide à l'emploi dans le centre de l'Alberta, seuls deux ont des ressources dédiées aux adultes de 55 ans et plus. C'est ce que souligne une étude sur les stratégies d'emploi lancée par le centre de ressources pour aînés Golden Circle et la chambre de commerce de Red Deer. Pour la directrice du centre, Amber Mack, ce manque de ressources est problématique parce que les travailleurs plus âgés ont des besoins spécifiques, comme valoriser leur expérience sur un CV. L'étude montre que les demandeurs d'emploi ont exactement les compétences recherchées par les employeurs, mais les perceptions liées à l'âge freinent le recrutement. Les demandeurs de 55 ans et plus rapportent être vus comme mal adaptés et en fin de carrière. Le PDG de la Chambre de commerce de Red Deer, Scott Robinson, a été surpris de voir à quel point peu d'entreprises envisageaient de recruter des travailleurs plus âgés. Il pense pourtant que ce serait une solution à la pénurie de main-d'œuvre dans la région. Le rapport recommande d'accroître les ressources pour les 55 ans et plus et d'établir un point de contact entre employeurs et demandeurs d'emploi. Ici Tiffany Roquette, Radio-Canada, Calgary.
Une jeune femelle épaulard est toujours coincée dans un lagon de l'île de Vancouver où elle s'est retrouvée il y a 3 semaines. Jusqu'à présent, toutes les tentatives pour la sortir de là et la relâcher dans l'océan pour qu'elle retrouve son groupe familial ont échoué. L'opération demande de la stratégie, de la logistique et beaucoup de patience, comme l'explique Emma Hautecoeur.
La petite chasseuse courageuse est encore en santé à l'heure actuelle, selon le chef Simon John de la Première Nation, Iyatisset. Mais le chef n'est que trop conscient que le temps est compté, puisque son bien-être est en jeu. Il en prend d'ailleurs une grande part de responsabilité. La baleine plonge pour de longues périodes, elle est très active et s'est vite adaptée pour déjouer les stratégies déployées pour la capturer vendredi. Elle a mangé un oiseau, dit Paul Cottrell, de Pêche et Océan Canada, et des poissons et des phoques nagent dans le lagon. Mais qui sait si elle mange à sa faim? L'équipe a appelé en renfort des experts pour préparer le déploiement d'une senne, un large filet pour l'encercler et l'isoler dans une partie moins profonde du lagon. Mais une seconde opération n'entrera pas en jeu avant de s'être assurée qu'elle ne sera pas dangereuse pour l'animal.
Gentil jusqu'à un certain point. Mais si vraiment ils vont essayer, il va falloir, à mon avis, qu'ils soient un peu plus agressifs.
Fort est de constater qu'il faut changer de stratégie, selon Andrew Trites, directeur de l'unité de recherche des mammifères marins à l'Université de la Colombie-Britannique.
C'est pour son bien.
Ici Emma Hautecoeur, Radio-Canada, Vancouver.
Voilà, c'était le Radio-Journal de Radio-Canada. Merci d'avoir été à l'écoute et de retour à vos équipes matinales.